תודה רבה. Merci pour votre accueil, merci pour votre demande. Et Bezat Hashem, que le siour soit le Ilui Nishmat, Moshe Roger Ben Emma Simcha, et Kamouvan, le Ilui Nishmato Shel Hayeled, Eliyahu Chaim Ben Rina Kuka. Ben Nishmatam Tsura Bitor Chaim. Après, on dira tous les noms, Bezat Hashem, pour le reste. Chodesh Tov, nous sommes dans un mois très spécial dans l'année, où malheureusement nous avons l'habitude de croire que la lumière diminue pendant les mois de Tammuz et de Av, mais en réalité, on va essayer de comprendre quelles sont les notions de lumière et de noir dans notre monde. Le prophète Isaïe, vous savez qu'un prophète, c'est la parole divine. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'infini béni soit-il qui traverse un homme lorsque celui-ci est dans une situation où il est complètement paralysé par la parole divine qui le traverse. Tous, à part Moshe Rabbeinu, qui lui peut prophétiser tout en restant normal. Les autres doivent être dans un état qui est en réalité un état qui fait peur lorsqu'on le voit. Et le prophète Isaïe, au chapitre 45, nous dit la parole que nous répétons dans nos prières. Yotzer or ou borer chosher. Celui qui façonne la lumière et qui crée le noir, Ose shalom ou boré ra. Il fait le shalom, l'entité, la shlemut, pas seulement la paix, ou boré ra, et il crée le mal. Ani Hashem, Ose kol elle. Moi, l'Éternel, je fais tout ça. Autrement dit, il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Le mal n'existant pas réellement, si ce n'est que c'est une extinction du bien. Comme la lumière est la seule existence, et chaque fois que vous voyez du noir, on ne peut pas le fabriquer, le noir, il faut éteindre de la lumière. Comme le noir, comme le mal, c'est en réalité une diminution de la valeur normale de ce monde. La valeur normale de ce monde, c'est la lumière. La valeur normale de ce monde, c'est la santé. La valeur normale de ce monde, c'est la vie. Et tout ce qui est contraire à ce que je viens de dire ici, ce sont en réalité des diminutions de ces états normaux, des extinctions de la lumière. Et donc, à chaque fois que nous sommes dans une situation où on voit quelque chose qui est un petit peu plus bas que la normalité, mais c'est tout simplement parce qu'on a éteint, parce qu'on a perdu une parcelle de lumière. Quand je vous demande de faire du noir, eh bien on éteint toutes les lumières. Et une fois que la lumière est éteinte et qu'on a fermé les rideaux, eh bien on est dans un noir apparemment complet. Où est-ce qu'elle a disparu, la lumière? Elle s'est éteinte, elle a été avalée par des molécules de noir. Quand je vous demande d'allumer la lumière, eh bien la lumière revient et c'est le noir qui a été avalé dans les molécules de lumière. Moralité, il n'existe qu'une seule existence, c'est l'infini béni soit-il. Et cette existence de l'infini béni soit-il a donné dans ce monde l'état de lumière. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait de ce degré de mal. D'où est-ce que commence le noir? Eh bien, dans la parasha de Bereshit, au début de la création, on dit « Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosech al penei tehom ». La terre était tohu bohu, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a tout, mais en désordre. Et donc « tohu vavohu », vous entendez en hébreu « tohu ve'bohu », c'est-à-dire que tout est caché à l'intérieur. En lui, il existe. Mais, étant donné que c'est en désordre, pour nous, ça s'appelle le mal. Donc le mal, c'est quoi? Deuxième définition, c'est une mise en désordre de l'ordre normal. Donc lorsque nous ne sommes pas organisés, et je joue avec les mots en français, c'est qu'il n'y a pas de lumière qui gère les choses. Organisé, c'est-à-dire c'est la lumière qui donne un ensemble. Et donc, lorsque la lumière or-haganouz, organisée, ça vient de la lumière cassée, le or-haganouz, Kakadosh Baruch Hu, a créé, et qu'il a cassé cette lumière dans l'existence, eh bien, il y a ce qu'on appelle un tohu-bohu, comme un puzzle qui est parti d'une image complète et qu'on a coupé en mille morceaux. Et c'est la même chose dans notre vie. Tout était complet au départ, seulement ça a été cassé en mille morceaux et mis en désordre dans une boîte. Et notre travail, c'est tout simplement de reformer l'image qui existe déjà. On n'est pas à inventer une nouvelle image. On ne nous demande pas d'inventer un nouveau programme. On revient au programme initial voulu par l'Éternel. C'est clair ce que je dis? Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé une forme de désordre volontairement pour nous laisser à nous la place de participer à remonter le puzzle. C'est tout. Ça s'appelle, tout ce processus, un retour vers l'origine. Donc teshuva. La teshuva, c'est un retour. C'est pas faire teshuva. Comme vous l'entendez aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi on va. La teshuva, c'est tout simplement un retour vers quelque chose. Ou le retour de quelque chose vers ce monde. En l'occurrence, le retour d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qu'il a lui-même créé. Ça veut dire que celui qui fait en premier lieu teshuva, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en créant le monde, il a disparu, et qu'en faisant teshuva, donc traduction retour, il revient vers le monde qu'il a lui-même entre guillemets quitté pour nous laisser la place. Et donc, quel est notre rôle? C'est de le laisser revenir dans notre monde. Donc, nous sommes tous des canaux par lesquels la lumière divine passe. Et si je suis un bon canal, eh bien, il y a plus de lumière qui me traverse. Et étant donné que la lumière me traverse, je deviens plus heureux. Parce que je certifie l'Éternel. Donc, certifier en hébreu se dit anime asher. Donc animé ou charge, je deviens heureux. Et donc, si je fais traverser par moi des éléments de divin, je deviens de plus en plus en bonne santé, je suis de plus en plus heureux, je n'ai plus de peur, parce que tout se transforme en lumière. Encore une fois, toutes les parties de noir qu'il y avait en moi, je les ai tout simplement remplies de lumière, donc il n'y a plus de noir. Donc on inverse les mots, le pachad, la peur, devient dachat, une poussée. Et tout devient comme ça. Mahala devient hachlama, guérison. Maladie, guérison, c'est les mêmes lettres. Tout simplement, le désordre et le retour à l'ordre. C'est clair? Ok. Lorsque l'Éternel donc dit, et là, il y a en fait une... J'ai un petit peu de mal en français parfois parce que ma langue natale, c'est l'hébreu. Je suis israélien de naissance. Je suis né en Israël. Le français que je vous parle maintenant, c'est un français que j'ai appris sur le tas. Donc... c'était pas pour m'applaudir, c'était juste pour vous dire que j'écris en hébreu, mes cours sont en hébreu, je réfléchis en hébreu et je fais une traduction simultanée. Donc je fais travailler mon cerveau gauche. Tout ça pour vous dire que je cherchais un nom, c'était une nusra. Une nusra, une formule, voilà, merci. Alors la formule de toute la vie, c'est de mettre la lumière là où il manque. Donc quelle est la formule de ce monde? Yehi Or. C'est ce que Kadosh Baruch Hu dit à la création du monde. Vayomer Elohim, Yehi Or, que la lumière soit. Eh bien, si j'utilise cette formule dans ma vie et que je mets la lumière partout, ma vie change complètement. Donc au lieu de voir du noir, je vois de la lumière. Et j'éclaircis ma façon de voir et tous les éléments qui sont vus par moi. Et donc il y a une différence maintenant entre la lumière et le noir, Vayar de l'Elohim ben Haor ou ben Hachosher, et il faut savoir faire les différences. C'est comme Motsaé Shabbat. Motsaé Shabbat, qu'est-ce que vous faites? La Havdala. Qu'est-ce que c'est qu'une Havdala? Pas séparation. Différenciation. Oy va avoy. Si vous faites une séparation, vous mourrez. Donc, arrêtez de traduire faussement les termes qui sont très précis. Havdala et non pas Hafrada. Il n'y a pas de Hafrada. C'est assour de séparer. Il faut tout simplement connaître les différents. C'est différent complètement, attention. Donc, il faut savoir différencier entre Israël et les nations, et non pas les séparer. Il faut savoir différencier le Shabbat des jours de la semaine, et non pas les séparer. Et il faut différencier la lumière du manque de lumière, et non pas les séparer. Toute séparation égale mort. Toute différenciation égale intelligence et délicatesse de l'esprit. Et plus vous êtes dans la grossièreté, plus vous vous éloignez de Eden. Eden, ce n'est pas un jardin, ça vient de la racine Adin, la délicatesse. Donc Gan Eden, c'est le jardin de la délicatesse. Plus tu es précis dans ce que tu étudies, moins tu rassembles des mots et tu dis des mots juste pour ajouter des choses. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est une précision extrême, car elle est divine, et il faut faire très attention aux termes que nous utilisons pour traduire telle et telle chose. C'est pour ça que c'est très difficile de parler dans une langue étrangère au Kodesh, qui est l'hébreu, parce que chaque traduction est un petit peu une trahison. Et donc je fais très attention de ne pas trahir dans un langage qui est étranger à la source. Vous savez comment ça s'appelle un langage qui est étranger à l'hébreu? Lo'azi. Lo'azi, c'est la son avodah zara. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler maintenant dans un langage de avodah zara, malheureusement parce que nous sommes malades de 2000 ans d'exil. Mais Be'ezrat Hashem, un jour, vos enfants, vos petits-enfants sont déjà guéris. Donc vous êtes en voie de guérison, vous n'êtes pas là pour vous-même seulement, vous êtes là pour vos enfants et vos petits-enfants. Alors Be'ezrat Hashem, ça c'est la guérison, c'est lorsque le peuple revient à son identité et parle sa langue. Donc je préfère de loin parler la langue du Saint béni soit-il, car ça s'appelle la son HaKodesh. C'est la langue du code, et non pas la langue sainte. De la même manière que Jérusalem n'a jamais été la ville sainte, mais la ville du Saint béni soit-il. Différence en hébreu, pas Ir Hakdosha, mais Ir Hakode, la ville du code. De la même manière que Eretz Israël s'appelle Eretz Hakode, et non pas la terre sainte, des Holy Land. C'est absurde de dire ça. C'est la terre du Saint béni soit-il. C'est différent complètement. D'accord? Pas Eretz HaKdosha, mais Eretz HaKodesh. Donc il y a une appartenance. Maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre comment ce déroulement est en train de se faire. D'abord, il faut qu'on se situe. Nous sommes dans un livre de passage entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Donc tout le livre de Bamidbar est un livre de désert qui nous apprend en fait à entendre. Donc dans le mot Midbar, il y a le mot Medaber. C'est-à-dire que c'est un désert qui raconte quelque chose. Si tu ne sais pas décoder ce que le désert te dit, eh bien tu traverses, tu marches, tu ne sais pas ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est la faute des explorateurs par exemple qui ont causé en fait de tourner en rond. Chaque fois qu'on faute, dans notre vie, on tourne en rond, toujours. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va droit. C'est pour ça que la faute, par exemple, du veau d'or, s'appelle en hébreu « Chet ha-igoul ». « Chet ha-egel », c'est la faute du cercle. c'est-à-dire la faute qui te fait tourner en rond dans ta vie. Et chaque fois que tu vas aller droit, ça s'appelle Yachar El ou Israël. Donc, la droiture doit être dans ce monde que nous sommes à l'intérieur d'un monde circulaire. Toutes les planètes sont rondes, tout est rond, il n'y a pas de ligne droite dans l'univers, ça n'existe pas. Et la seule droite, c'est en réalité Israël, qui est la mémoire ou le souvenir de l'infini béni soit-il, qui lui aussi est la droiture de ce monde. Qui a ça, vous, car lui est droit, bien nous sommes ses porte-parole, son porte-parole. D'accord ? Alors, son nom maintenant, quatre lettres, le tétragramme, le voilà, Yud, He, et après le Vav et le He, ce sont en réalité les quatre niveaux de vision de la vie. C'est pas son nom, il n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. À partir du moment où on lui donne un nom, on le limite. Donc on ne peut pas le limiter, c'est l'infini béni soit-il. On n'a pas le droit de le définir. Alors qu'est-ce que c'est que son nom ? C'est tout simplement un dévoilement. Mais il y a d'autres. Il y a Elohim, il y a El Shaddai, il y a Havaya, il y a Adnout, il y a Shalom, il y a plein de noms. Donc ça c'est le nom premier, principal. Et qu'est-ce qu'il révèle ce nom-là ? Eh bien, il révèle les 4 degrés de ce monde. C'est pour ça que dans ce monde, il y a 4 degrés de vision des choses. Même dans la lecture de la Torah, il y a 4 niveaux d'explication et de lumière. Premier niveau, c'est le sens simple, le pshat. On monte un petit peu plus. Alors, je commence par l'inverse, parce que c'est le pshat, c'est le plus bas. C'est la dernière lettre R. Rémé, Drach et Sod, le secret. Donc, le secret correspond à la lettre Yud parce que c'est un point. Et qu'est-ce que c'est qu'un point ? C'est le début de n'importe quelle forme. Et dès qu'il y a des formes, c'est déjà une direction. Il y a déjà des sens. Donc chaque fois que vous voyez une lettre en hébreu, elle vous amène quelque part. Qu'est-ce que c'est Ot en hébreu ? Ata en araméen, venir. C'est comme si vous montez sur un véhicule qui a une certaine forme et il fait circuler la lumière selon la forme de la lettre. Donc en réalité, quand vous voyez une lettre hébraïque, c'est la forme par laquelle circule la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et l'étude des lettres, c'est l'étude des canaux utilisés par l'infini pour arriver dans ce monde. C'est pour ça que vous ne vous ressemblez pas. Chacun de nous est une lettre lui aussi, et les visages ne se ressemblent pas. Les Kriyot Etzbaot, les empreintes ne se ressemblent pas, même les jumeaux ne sont pas identiques. Pourquoi ? Parce que chacun de nous est un canal bien précis pour la diffusion de l'infini. Donc si l'un de nous manque, il y a moins de dévoilement du sème, du nom. Et moins de dévoilement du nom, ça s'appelle Chilul Hashem. On va profaner le nom. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt parce qu'il n'y a plus un soldat à manquer ? On est obligé de combler le vide par un kiddush Hashem. Donc, on fait un kaddish. Donc, le kaddish, c'est pas seulement la prière pour les morts, c'est tout simplement pour combler le vide qui a été créé par la disparition de la personne en question. C'est bien ? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, Be'ezrat Hashem, pour que les neshamot de ceux qui sont partis soient remplis et grâce à leur mérite, Baruch Hashem, toute l'institution qui a été faite ici. Ces 4 lettres sont aussi correspondantes à 4 mondes. On les appelle dans la Kabbale Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Peu importe si vous ne rappelez pas des noms, tout simplement c'est pour vous dire qu'il y a un problème dans la prière que je vous ai citée du prophète au début. Puisque ici, on va prendre les 2 lettres au milieu, c'est le monde de Beria Boré et le monde de Yetzira qui est plus bas. Là c'est le plus haut, là-bas c'est le plus bas. Donc on va en diminuant. Et regardez ce que j'ai dit, ce que le prophète a dit, Yosef, or j'ai utilisé le mot Yetzira pour la lettre basse, ou Boré, Roche, et j'ai utilisé ici le noir, c'est-à-dire qu'il y a ici du noir, et plus on descend, plus il y a de la lumière. avec des mots simples, plus c'est élevé, plus c'est le noir, plus c'est bas, plus c'est la lumière. Comment est-ce possible? Pas normal. Alors le Hari Akadosh pose la question. Il y a un problème dans cette parole du prophète, si ce n'est que le prophète vient nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que le prophète vient nous apprendre? C'est que tout est relatif à la personne. C'est nous, dans notre monde à nous, quand tu comprends quelque chose, tu as l'impression que tu es dans la lumière. Et quand tu ne comprends pas, pour toi, c'est le noir. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus bas ou plus haut. C'est l'inverse. Plus c'est haut, plus toi tu vois du noir. Et donc le monde qui est élevé, qui est la lumière elle-même, pour toi ça devient du noir. Alors que le monde qui est plus bas, alors qu'il est plus bas, pour toi c'est de la lumière parce que tu comprends ou tu as l'impression de comprendre quelque chose. Moralité, on voit tout à l'envers dans ce monde. Si je parle avec un langage élevé, vous ne comprenez pas. Donc pour vous c'est du noir. Et plus je descends du niveau, vous me dites, ah, ce rab, il est clair quand il parle, donc vous avez l'impression que c'est la lumière. Mais moi, j'ai fait un effort infini pour descendre encore plus bas. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ce qu'on voit et à ce qu'on a l'impression de voir. C'est-à-dire que c'est trompeur. Pourquoi je parle de ça? Mais tout simplement parce que tout est par rapport au receveur, au réceptacle, au kelim, aux ustensiles. Et chacun de nous est un ustensile à part entière. C'est-à-dire la capacité que cette dame a de recevoir la lumière n'est pas la même capacité que cette dame. Et donc, en réalité, quelque chose de très élevé pour elle va être peut-être du noir ou de la lumière et inversement. Ben, tout simplement parce que nous ne sommes pas les mêmes. On a chacun un autre degré dans ce monde. Votre nom indique déjà que vous êtes différent de son prénom à elle. Et donc les lettres qui composent mon prénom m'ont donné une certaine direction, un certain travail dans ce monde qui n'est pas pour l'autre. Et c'est pour ça que nous avons des métiers différents, c'est pour ça que nous avons une façon de parler différente, c'est pour ça que nous avons une forme physique différente, une pensée différente. Et si vous sortez de ce cours, chacun de vous va le dire différemment. Comme si vous étiez dans 40 ou 50 ou 60 cours différents. Incroyable, alors que ça vient du même. Cette règle vient de la Torah. Et elle est écrite où? Dans Tehillim 62. Dieu parle un, et nous on entend deux. Deux, c'est le début du pluriel, ça veut dire mille. Achas diber Elohim, Sain zu shamati. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu parle dans un langage unitaire, moi, l'homme, comme je ne comprends rien au langage unitaire, eh bien, il faut que ça passe par le pluriel, sinon je comprends rien. Donc à chaque fois qu'on me parle du un, je comprends rien. Dès qu'on me parle des détails, je commence à comprendre. La preuve, quand vous dites Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, comme c'est Echad, vous ne comprenez rien, on vous demande de fermer les yeux. C'est pas par hasard qu'on met la main sur les yeux, ça veut dire qu'on est tellement incapable de comprendre l'unité qu'on se dit, bon, pour l'instant, calme-toi, c'est pas grave, ferme les yeux, fais comme si tu avais compris, mais toi, tu es tellement dans le monde des détails que si on ne te parle pas de détails, tu as l'impression que tu n'as rien touché. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que la Torah, que Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je m'efforce d'enseigner, elle est plus dans le monde de l'unité que dans le monde du détail. Parce que beaucoup de cours auxquels vous allez traitent justement de détails. Alors que mon approche dans la Torah, et c'est ça aussi peut-être ma différence, c'est que j'essaie de vous apporter une lumière qui vient un petit peu plus de cette unité. Et donc quand je parle toujours de cette unité avant qu'elle se mette en détail. Ainsi, un petit exemple, c'est comme si je parlais du soleil et non pas de ses rayons. Parce qu'en réalité, tous les rayons sont des rayons qui sortent du soleil. Les rayons n'existent pas, vous êtes d'accord avec moi? C'est les rayons du soleil. Si j'éteins le soleil, il n'y a plus de rayons. mais si j'éteins un rayon, le soleil continue. Donc moi, je ne traite pas des rayons, j'essaye de m'occuper du soleil. D'accord? Et nous, chacun de nous est un rayon d'un grand soleil qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Et si tu as perdu ton lien avec le grand soleil de l'Assemblée d'Israël, tu ne vaux rien en tant qu'individu. Et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Le fils est aussi et atmo min haklal. Si tu t'es retranché du grand soleil qui représente ton peuple, kafar baikar, tu es sorti de l'essentiel. Donc tu n'existes même plus. Ça veut dire une cellule dans le corps humain qui commence à faire ce qu'elle a envie. Ça s'appelle le cancer. Si une cellule dans les milliards qui nous forment commence à faire ce qui lui vient, ce qu'elle a envie, elle ne comprend pas ou elle a oublié qu'elle fait partie d'un organisme entier, eh bien, c'est le début de la maladie. Moralité, chaque cellule de mon corps fait quoi? C'est quoi la volonté de qui? De l'unité tout entière. Sinon, quand je me lève le matin, normalement, il devrait rester une oreille, un nez, dans le lit. Imaginez-vous que l'oreille vous dise, moi je suis crevé aujourd'hui, hier j'ai entendu trop de bêtises, je reste au lit, je vous rejoins tout à l'heure. Hein, ça vous fait rire. Mais c'est ça en réalité quand on ne comprend pas qu'on fait partie d'une nation. Alors quand je me suis levé ce matin pour venir vous voir, il fallait que je me lève tôt parce que il y a beaucoup de circulation, eh bien j'ai rien laissé sur mon lit. À part les cellules mortes qui ont déjà quitté. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il faut marcher dans votre vie. Ce qui veut dire que même les parties que tu considères comme étant le noir, c'est en réalité la grande lumière. Alors pourquoi tu l'appelles noir? Parce que tu ne comprends pas. C'est tout. Quand j'étais en France, on me disait c'est de l'hébreu pour moi. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi, je disais Alvaï. Moi, je comprends l'hébreu. Eh bien, les gens, pour me dire qu'ils ne comprenaient rien, au lieu de me dire c'est du noir pour moi, ils me disaient c'est de l'hébreu. C'est-à-dire l'hébreu, c'était le noir. Mais moi, pour moi, l'hébreu, c'est la grande lumière. Vous comprenez comment ça marche? Mais c'est toujours pareil dans la vie. Donc, Yosser Or, quand c'est Yetzirah, c'est un monde plus bas, on appelle ça Or. Et Boré, c'est un monde plus haut, Bria, on appelle ça Chosef. Moralité, le lumineux et le noir dépend de quoi? De ta capacité à entendre les choses, à recevoir les choses. Et les gens pour qui, par exemple, j'espère que non, le cours était trop élevé, vont dire j'ai rien compris. C'était du... Aujourd'hui, ici, c'est du chinois. Alors en réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, les choses dans ce monde qui nous paraissent mal, noires, sont en réalité du bien. Seulement, on ne le voit pas tout de suite. Par exemple, le noir en Égypte, l'appelait des ténèbres. On appelle ça Makat Khosher. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pour faire cette Makat Khosher? Il a éteint une lumière? Non, il a augmenté la lumière. Et ceux qui n'étaient plus capables de recevoir parce qu'ils étaient trop forts, ils ont vu du noir. La preuve, c'est que les enfants d'Israël, il n'y avait pas encore de juifs, les enfants d'Israël, les juifs ça n'existe pas, les Bnei Israël, ils ont vu Haya Or. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il n'a fait que augmenter le volume, l'intensité de la lumière. Et ceux qui n'ont plus les kélims pour recevoir, comme les Égyptiens, pour eux ça devient du noir. Donc qu'est-ce que c'est Makat Khosher? Vous devriez l'appeler Makat Or. Et c'est toujours comme ça dans notre vie. Quand la lumière messianique est en train de descendre dans le monde, elle est trop forte par rapport à ce que le monde connaît et est capable de recevoir jusqu'à aujourd'hui, le monde va devenir fou. Tout va commencer à se chambouler. Le temps, les températures, tout. Pourquoi? Mais parce que le monde ne comprend pas la grande lumière. Il s'est habitué à une petite lumière parvée. La même chose dans les cours de Torah. La même chose dans les cours de Torah. Il faut faire attention de ne pas vous habituer à une petite Torah. Chez les Français, il y a tout est petit. Quand j'étais en France, ça m'a choqué. Bonjour mon petit monsieur, bonjour ma petite dame. Vous voulez un petit croissant, un petit café, un petit déjeuner, une petite baguette, tout est petit. Je dis non, moi je veux une grande baguette. Pourquoi petit? Tout est petit. Je voulais dire un petit peu parce que c'était un petit peu... C'est incroyable cette petitesse. Il a marqué « petit ma'amin le kol davar ». C'est une blague en hébreu pour les hébraïsants, car « petit » en hébreu veut dire un imbécile. Donc il faut arrêter d'être petit. Et moi, quand je parle à mes élèves avec beaucoup d'humilité, je leur dis, si vous voulez faire tshuva cette année, faites tshuva sur la petitesse. Devenez grand. Voyez en grand. Arrêtez de voir en petit. Parce que si tu te vois en petit, les autres te voient encore plus petit. Et c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Regardez, quand vous ne comprenez pas l'hébreu, Vanehi de'enenu kechagavim, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, disent les explorateurs quand ils ont vu les géants de la terre d'Israël, Vechen ha'inu be'enehem. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Non, c'est pas et ainsi. Vechen, c'est le masculin de Kina, qui veut dire un pouls. Un pouls, P-O-U-X. Toi, tu t'es vu comme une sauterelle, l'autre va te voir comme un pouls. Vous comprenez la différence? Eh bien, c'est la même chose. Si vous vous considérez comme une serpillière, on va faire avec vous le ménage. Vous comprenez? Donc arrêtez d'être des victimes dans ce monde. Il y a des gens qui sont toujours victimes. Toujours. Ça va? Ouais. Jamais oui, Baruch Hashem, ça va bien? Non. Ah, je suis crevé, j'ai pas d'homme. Jamais bien. Jamais. C'est incroyable. D'ailleurs, chez les pieds noirs, on dort jamais, on s'allonge. On dirait qu'il y a une interdiction. T'as dormi? Non, je me suis allongé. Ah bon? Il est malade? Non, il est fatigué. Très fatigué, c'est Laïssa. Il est bien fatigué, alors là, c'est fini. Elle est belle, mignonne. Ça veut dire flash. Il y a des langages à apprendre. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'allais vous faire rire comme ça, mais bon. Ça vous fait du bien. Baruch HaShem. Et donc, il y a une différence entre le désert et la terre d'Israël. Dans le désert, la Torah est beaucoup plus inférieure que la Torah de la terre d'Israël. Donc, comment elle est aperçue par les hommes du désert comme une grande Torah? Alors qu'en Eretz Israël, quand tu rentres, tu te dis, mais il n'y a pas de Torah. Je vois que du noir. Tellement la Torah est grande que tu ne vois rien. Donc tu considères que la Torah d'Israël, c'est le noir, alors que la Torah de l'exil, c'est une grande Torah. Et moi-même, quand je suis revenu en Eretz Israël, un de mes rabbanim là-bas m'a dit, quand tu rentreras en Eretz Israël, tu perdras ta Torah. Autrement dit, la terre d'Israël est tellement forte que elle va te bouffer, te manger la Torah, tu n'auras plus rien. Tout ça parce que la Torah de l'exil est tellement basse que tu as l'impression que c'est la grande lumière. Comme tout à l'heure dans l'exemple. Alors c'est inversé complètement. Donc moralité, il faut faire très attention lorsqu'on entend. Et pourquoi est-ce qu'on peut vous dire que la Torah en terre d'Israël, elle est... tu vas la faire? Parce que tu vas avoir affaire à des efforts au niveau de ton travail, de ta parnassa. Tu vas avoir à faire des efforts au niveau de l'armée, il y a des problèmes, il y a des attentats, il y a des guerres, et tu vas avoir des problèmes au niveau du social. en terre d'Israël. Donc vous avez en réalité un problème social, économique et sécuritaire. Vous savez comment on les appelle ces trois problèmes? Ce sont les trois géants qui étaient en terre d'Israël, que les explorateurs avaient peur des géants. Un s'appelait, il y avait trois, Talmaï, un s'appelait Sheshai, et l'autre s'appelait Achiman. Alors on va commencer par Achiman, Achi, mon frère, ça veut dire problèmes sociaux. Quand je suis monté ce matin dans l'ascenseur, il ne m'a même pas dit bonjour. Ils sont impolis, ces Israéliens. Hein? Même pas il me dit bonjour madame, directement, Massa. Hein? Et donc on est vexé, on ne sait pas. Le type du laisse la vie, et pas des réchauffes, ma sœur, qui dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur que, juste en te disant, bonjour monsieur, comment tu vas, ma sœur, tu es déjà parti. Alors il y a des problèmes du social. On n'arrive pas. Il y a une mentalité, j'arrive pas. Ça, c'est un géant. Un des géants. Le deuxième s'appelle Talmaï. Qu'est-ce que c'est Talmaï? En hébreu, Tlamim, c'est des sillons de terre. Donc des problèmes économiques. Comment je vais gagner ma vie? C'est difficile. Alors, l'un des géants s'appelle Talmaï. Incroyable, le géant de l'économie. On a vu le géant social, le géant économique. Et le troisième, vous avez compris, il s'appelle Sheshai. Sheshai veut dire militaire. Donc il y a un géant de l'armée. Et donc, un petit Français qui arrive ici, il se dit, mais attends, ces trois géants, ils vont me manger. Il ne me restera plus rien. Entre l'armée, l'économie et le social, mais qu'est-ce que c'est ici? Vous voyez qu'il n'y a rien de changé depuis le temps de la Torah et aujourd'hui, c'est la même chose. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu rentres dans cette terre, c'est ma volonté. Arrête de te poser des questions. Si tu te demandes de venir sur cette terre, c'est que tu en es capable. Et toi, avec tes peurs, tu vas dire quelque chose de beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Qui chazakou ni même nous. Ils sont plus forts que nous. Non, dit Rashi, ces géants sont plus forts que Dieu. Comme ça, Rashi sur le verset, qui chazakou ni même nous. C'est mitrisu bisnei hamakom klafei mala. Dit Rashi quelque chose d'énorme. Quand tu dis, quand vous dites, c'est trop dur pour moi la terre d'Israël, c'est comme si vous étiez en train de dire, c'est trop dur pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a créé une terre qui a dépassé complètement ce qu'il pouvait lui dépasser, il a peur. Donc il n'y peut rien. Quand tu rentreras ici, cette terre va te manger. Vous comprenez le danger qu'il y a? Autrement dit, vous devez changer votre façon de parler quand vous parlez de cette terre. Vous devez changer votre façon de voir quand vous parlez, quand vous regardez cette terre. Et j'ai l'habitude de dire, parce que je fais des séminaires en France pour les gens, pour la Alia, que la terre d'Israël, si tu lui fais une grimace, elle va être un monstre. Mais si tu lui fais un sourire, elle va te sourire. Et il faut faire très attention à tout ça. Alors c'est incroyable parce que je suis venu, ça fait 10 ans que ça existe.
Non,
3 ans. Bon, ça fait 3 ans que ce séminaire existe. Et Baruch Hashem, j'ai eu la chance quand même de venir après 3 ans. Merci de votre accueil. Mais je suis venu un jour spécial. Rochrodesh. Et quel Rochrodesh? L'amour. Et vous savez quelle est la partie corporelle qui correspond au mois de Tammuz? Les yeux. Le Hari HaKadosh nous dit, le mois de Tammuz, tu dois corriger ta façon de voir. Pourquoi? Regardez maintenant, les explorateurs, quand ils sont sortis pour parler du mal de la terre d'Israël, quel jour ils sont sortis? Hier. Le 29 du mois de Sivan. Hier. Quand j'ai écrit le cours, et ils ont marché pendant un mois entier Tammuz et les 9 premiers jours de Av. Ils sont revenus le 9 Av, 6 Av et Av. Donc pendant un mois entier de Tammuz, qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont dégradé leur vision. C'est-à-dire, ils ont vu de la terre d'Israël que le mal. Correction. Ce mois-ci qui commence maintenant, vous allez descendre dans quelques minutes dans la rue, vous allez commencer à corriger ça. En voyant le bien. Et c'est pour ça que David HaMelech nous dit Ouré Betouv Yerushalayim. Je te demande de voir le bien de Jérusalem, parce que c'est très facile de voir le noir. Quand tu ne sais pas voir l'intériorité, tu verras que ce que tu vois devant toi. Et je vous habillez, c'est un petit peu mon métier, je suis artiste peintre, donc je vous parle comme si je peignais. D'accord ? Il y a deux niveaux de vision dans ce monde. Il y a un niveau supérieur, qui est le niveau de la Neshama, et ce niveau s'appelle Léa. Léa, quand vous voyez Léa dans la Torah, c'est le niveau de la Neshama. D'accord ? Il y a un niveau qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus visible, beaucoup plus dans le monde, ça s'appelle Rachel. Léa et Rachel, ce sont des noms de code. Ce n'est pas seulement deux femmes qui existaient du temps de la Bible. Vous comprenez comment on peut lire la Torah ? Maintenant, si la Torah me parle de Léa et de Rachel, je dois savoir si elle me parle de l'intérieur ou de l'extérieur. Quand je dis Rachel, je dis belle. Quand je dis Léa, je dis profonde. Léa, c'est le Olam Abba. Rachel, c'est le Olam Hazé. Et ce sont deux femmes qui sont jumelles apparemment. Elles se ressemblent et elles se sont mariées avec un seul homme qui s'appelle Yaakov. Voilà les deux femmes. Olam Abba, Léa. Olam Hazé, Rachel, c'est les mêmes. Et elles se sont mariées avec Yaakov qui a fait le lien entre les deux. Maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Léa, ça s'écrit en hébreu Lamed Aleph He. Léa. Rachel, ça s'écrit aussi trois lettres Reh, Chet, Lamed. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moshe Rabbeinu, quand il a envoyé les explorateurs pour voir la terre d'Israël, il leur a demandé de voir quoi ? La terre profonde ou extérieure, superficielle ? Profonde. Parce qu'il savait, Moshe, que si tu vois une poubelle avec le truc dehors, tu te dis, oh là là, jamais je viens d'ici, moi. Oh, à la française, tu sais. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, fais attention, envoie-les pour voir l'intériorité. Sinon, ils vont être brûlés par l'extérieur. Parce que ça fait peur dehors. Je vous ai dit que l'intérieur s'appelle Léa. Eh bien, Moshe leur demande, écoutez bien les initiales, la tour est à arrêt. La tour, la met, est, aleph, haaret, he, le a. Va aller visiter la terre dans le sens simple, mais Moshe leur dit, allez voir la Léa, la Neshama qui se cache dans cette terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rechon, levo, chamat, rachet et votre Rachel. Ils ont vu Rachel dans les versets. Ce secret-là, rechon, levo, chamat. Qu'est-ce que ça veut dire? On est venu pour voir ce qui est réellement. Et Hamad veut dire la colère. Chema. Pas Chema, le beurre. Chema. Je sais que c'est en français, j'ai pris l'habitude maintenant. Tous les mêmes mots. Le A, le He n'existe pas. Agadol. Agadol. Avec un A. Non, Ha, Gadol. Si tu dis Agadol, ça ne veut rien dire. Ha. Il faut prononcer le hé, n'ayez pas honte de dire aïn. Ken? Raïti ayam adam ani. Ça veut rien dire. Je me moque pas. C'est tout simplement qu'il faut attention quand vous étudiez la langue, étudiez-la. Parce que c'est l'identité de la nation. Ken? Traïnflat. Ken? Il faut faire attention de ce que tu dis. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Moshe les envoie pour voir une terre profonde, une Neshama, et eux ne voient qu'un corps. Et les Chachamim nous disent, ne soyez pas choqués, hein, de ce que je vais vous dire, mais ce sont les paroles de nos sages, quand tu dois choisir une femme, il faut regarder ses yeux. Quand un homme se marie avec une femme, doit regarder ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas si elle est belle au niveau de ses yeux. Si elle a de la générosité. Les yeux, c'est la générosité. Et dans le terme de nos sages, Kala, c'est aimé à Tovot. Une Kala, c'est un bon œil, c'est-à-dire qui est large. Un Kol Goufat Sarikdika, c'est pas la peine d'aller vérifier son corps. Incroyable. C'est-à-dire qu'il doit choisir sa femme par sa générosité. Si tu vois une femme qui est généreuse, tu n'as même plus besoin de vérifier ce qui se passe au niveau de son corps. Malheureusement, le monde dans lequel on est, c'est exactement l'inverse. D'abord, on essaye le corps et après, on voit ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi je vous fais là le parallèle, le rapprochement? Parce que la terre d'Israël, c'est la femme du peuple d'Israël. Qui est notre mère? L'Égypte. Nous sommes nés en Égypte. Le peuple d'Israël est né en Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? Dit Rabbi Nachman de Breslev, alayhi salam. Ce sont tous les pays, ça s'appelle l'Égypte, sauf la terre d'Israël. Donc nous sommes nés en exil. Donc l'exil, c'est la maman. Donc quand tu quittes l'exil, tu quittes ta mère pour venir en Israël se marier avec ta femme. Et si tu as l'envie, ta maman, et tu ne veux pas ta femme, ça s'appelle un complexe de vie. Donc tu es toujours dans les jupes de ta mère. Oh la France, j'ai l'envie, la France, j'ai l'envie le matin, les États-Unis, les lumières, les cadeaux, les matins, Noël, ça va. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème très grave à ne pas pouvoir quitter sa maman pour se marier. Alors que la Torah nous dit, « Alken y'azov is et aviv ve'et imo ve'dabak be'isto » L'homme doit, pour se marier avec une femme, savoir quitter son père et sa mère. La fille, elle va toujours chez la mère. Elle s'est mariée. D'accord? Elle s'est mariée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très fort. Écoutez bien maintenant. Yetziat Mitzrayim, vous comprenez qu'on quitte la mer. Comment ça s'appelle l'entrée en Eretz Israël? Bia. Kitavo. El Haaretz. Le terme c'est Bia. Bia veut dire une venue. Dans le langage biblique, qu'est-ce que ça veut dire Bia? Un rapport intime. Ça veut dire quand on vient sur la terre d'Israël, c'est comme un homme qui vient se coucher sur son épouse. Et le rapport entre le peuple et la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il donne? Des fruits. Pas des bébés Stam, des fruits. Et c'est Chachamim qui vient nous dire dans le traité de Sanhedrin à la page 96, la plus grande épreuve de la fin des temps, c'est lorsque tu vas au marché et qu'il est dans l'abondance des fruits de la terre d'Israël. Pourquoi? D'où vient ce fruit? De votre rapport intime avec la terre. Plus les Juifs vont être ici, plus la terre va donner ses fruits de ses entrailles. Je le dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je le dis aussi. Je le dis. Alors, pour votre réponse, Madame a dit, nous on est convaincus, on est là. Mais une des phrases que les explorateurs ont dit, Eret ochelet yosveha. La terre d'Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. D'accord? Non. C'est pas ce qui est écrit. Encore une fois, il faut être précis dans la traduction, sinon c'est une trahison. Eret, la terre d'Israël, ochelet, elle mange qui yosveha, ceux qui sont assis. Autrement dit, si tu ne veux pas te faire avaler par cette terre, tu dois marcher. Tu dois arrêter de croire que tu es installé, que tu es tranquille. Ça veut dire que Abraham a dit, nous, notre papa, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé alors qu'on lui a demandé de partir? À Kadosh Baruch Hu, quand il était en exil, lui a dit, lech lecha. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Koum. Continue à marcher à l'intérieur même de la terre. Si tu t'installes ici et tu as l'impression que c'est fini, tu n'as plus rien à faire, tu es en train de mourir. La terre, la matière va te manger. Et c'est pour ça que les explorateurs avaient peur, parce que pour eux, il fallait s'installer. Yeshiva, tu dis non, Halicha, il faut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Avoir une démarche. Et pas seulement marcher, c'est tout simplement se réinventer tous les jours. De qui Abraham a appris cela? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. Car lorsque le premier homme a fauté, et qu'il a voulu se cacher dans le jardin d'Éden à l'intérieur d'un arbre, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas qu'il a entendu? Il a entendu qui? Non, ça c'est après. Il a entendu Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faisait Akadosh Baruch Hu? Non, avant. La Torah nous donne une précision. Mithalech betoch Adam. Dieu se marchait dans le jardin. Incroyable. Si la Torah ne voulait pas nous donner ce petit détail, parce qu'il n'était pas important, son fils, on aurait dû dire, Dieu dit à Adam, où es-tu? Non. D'abord, Adam entend Akadosh Baruch Hu, je dis se marcher, parce qu'il n'y a pas un mot en français, mithalech. Pas mehalech, pas il marche, il s'automarche. Je ne sais pas comment on peut dire en français, ça veut dire qu'il ne se repose jamais. Il est tout le temps dans une activité, dans un mouvement, dans une évolution. Et donc maintenant, il y a une grande, grande différence entre l'homme qui a fauté et Akadosh Baruch Hu qui est toujours dans le chidouche, dans la renouveauté. Et donc Akadosh Baruch Hu dit maintenant à Adam Harrison, quel est le mot qu'il lui dit? Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka? Où est-il? D'accord, ça c'est la traduction en français. D'abord, ce n'est pas Ayeka où es-tu, parce qu'Akadosh Baruch Hu sait très bien où il est, mais c'est l'homme qui ne sait pas où il est. Donc, si vous voulez déjà dire une traduction comme ça, dites où en es-tu dans ta vie, à toi. Est-ce que tu sais où tu es dans ta vie? Mais moi, je vais vous donner un autre doute. Ayeka, ça s'écrit comme Eicha. Vous savez ce que c'est Eicha? C'est la Megillah de lamentation de la destruction du temple. Qu'on lit à Tisha B'Av. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire à Kadosh Baruch Hu, au premier homme? Tu es tellement tombé bas que tu viens maintenant toi-même décrire la Megillah de Eicha de la destruction de tous les temples. Bien avant que les temples existent, vous comprenez ce que ça veut dire? Tu as cassé l'entité. Moi, je t'ai créé pour être divin. Tu es descendu à un tel niveau que tu viens toi-même décrire la Megillah de Eicha. Et je vais terminer avec cette marche. La marche de l'homme dans ce monde. Je vous ai dit au début du siour, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Yired Baruch. Je vous ai dit au début du siour que entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël, il y a une marche. Il y a 42 stations? Non. Non. Il y a fait merde. Il y a 42 voyages. Encore une fois, précision. Les Chachamim ne nous disent pas qu'il y avait 42 étapes, ni 42 stations, mais Arbaim Vestaim, Massaot. Qu'est-ce que ça veut dire Massaot? Voyage. Pourquoi c'est important? Pourquoi je m'arrête à ces détails? Vous croyez que c'est pareil? Oh, 42 états, bon, ça va, c'est pareil. Hein? Non. Parce que la précision de nos sages, c'est sur les voyages et non pas sur les arrêts. On va approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on faisait quand on s'arrêtait à chaque station? On construisait le temple, le Mishkan. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Mishkan? Tout, la Shrina, on pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu entre les deux chérubins, on entendait la voix divine, il y avait la menorah, il y avait... C'est de la folie, c'est génial. Et pourquoi la Torah ne nous parle pas justement de ces stationnements et elle nous parle de ces voyages? Qu'est-ce qu'on faisait avant chaque voyage? il fallait démonter le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire démonter le Mishkan, à part le faire réellement? Je veux vous amener au niveau psychologique à vous-même. Yafem, mais oh, c'est une remise en question de tout ce que tu as construit dans ta vie. À chaque étape dans ta vie, tu t'es construit un Mishkan, d'accord? Donc, naturellement, il y a Dieu, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, il y a la Torah, tu es tranquille. Pourquoi démonter ce Mishkan? Pourquoi casser tout cet édifice? Je dis à Kadosh Baruch Hu pour avancer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ta Torah si ta Torah elle est stagnante et qu'elle n'est pas à l'endroit voulu. C'est une étape que tu dois savoir détruire pour monter à l'étage supérieur. Mais si tu t'assieds, entendu? Et tu ne bouges plus, et tu te fixes, et tu deviens pieux. C'est pas un pieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mourir avec le niveau que tu as pu atteindre dans ta vie. Moraï Verabotai, c'est une leçon de vie. Si vous voulez avancer dans votre vie, peu importe l'âge que nous avons, il faut sans arrêt avancer. Lech lecha. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? De détruire ce que j'ai construit jusqu'à hier. Si je ne suis pas capable de détruire mon degré d'hier, je ne serai jamais nouveau demain. Parce que je vais garder toujours à... Hein, on dit en français, dormir, se reposer sur ses lauriers, c'est ça? Masukaze? Eh bien, c'est la même chose. Quand vous quittez un escalier pour monter ici à l'étage, vous êtes obligé à un moment donné de lâcher l'escalier? Mais si vous ne voulez pas le lâcher, eh bien, vous resterez toujours dans la même étape. Mais c'est la même chose dans notre vie. Et pourquoi c'est plus simple de rester? Et quand tu restes, tu vois la lumière, alors que c'est le noir. Parce que quand tu avances, tu es à chaque instant en déséquilibre. On est d'accord? Quand tu marches, tu es toujours sur un pied. Donc je ne peux pas tenir. Je suis obligé de tomber. Et quand je tombe, ça me fait avancer. Donc en réalité, quand est-ce que tu avances dans la vie? Quand tu tombes. Et donc tout le noir de ta vie où tu as l'impression que c'est une multitude de chutes, c'est en réalité une multitude d'avancements, d'avancées dans ta vie. Et toi tu as traité ces chutes, le noir, alors que c'était le tremplin de ta lumière. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité de vision à corriger le mois de Tammuz, de voir la lumière, au lieu de voir le noir dans chaque degré. Et c'est pour ça que je vous ai dit que même dans la maladie, dans le noir en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie des ténèbres en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël pendant la plaie des ténèbres? Ils ont récupéré l'or, l'argent et les vêtements. Vous croyez que c'était des voleurs? C'est dans le premier sens du terme. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Tout ce qu'il y avait à récupérer dans ce malaise, dans ce mal-être. Traduction. J'arrête, hein, je finis. Non, parce que je vois que ça commence à... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité en Égypte pendant la plaie des ténèbres? Ben, il s'est passé une seule chose. C'est que tous les gens ont profité de ce moment de chute, de brisure, de malaise, de mal-être, de dépression, pour gagner des éléments qu'ils avaient perdus. Ce que je veux vous dire, et c'est ça le message qui est très clair, quand vous avez des problèmes dans la vie, quand nous avons des moments de faiblesse, quand nous voyons le noir, à l'intérieur de ce noir se cache une grande lumière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces moments de dépression? Aller chercher ces étincelles de lumière, comme pendant la plaie des ténèbres, on a récupéré tout ce qui nous appartient. Et pourquoi il faut le faire quand il fait nuit? Parce que quand il fait jour, tu vois rien. La lumière est tellement aveuglante que tu ne vois pas les détails. Quand je veux montrer une toile à un client qui veut l'acheter, qu'est-ce que je fais? J'augmente la lumière ou je diminue? Je diminue la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les nuances des couleurs, elles prennent leur force. Alors que si j'éclaire la toile pleine lumière, j'aplatis toutes les couleurs, il n'y a plus rien. Moralité, dans notre vie, on voit plus lorsqu'on est dans l'ombre que pendant que nous sommes dans la lumière. Et celui qui a compris ce secret, c'est le seul qui était capable de construire un temple. Il s'appelait à l'ombre de la lumière. Bessalel, Bessalel. Bessalel, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est tout simplement celui qui a compris qu'il est Bessel, à l'ombre de El, d'Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est dans la lumière, il ne peut pas créer un temple. Celui qui est dans l'extinction de la lumière, il peut démonter ce qu'il a l'impression qu'il a construit dans sa vie pour avancer, pour évoluer, pour faire une démarche et pas seulement une marche dans la vie. C'est très important de comprendre ça. Et donc, moralité, nous sommes dans une situation où nous sommes dans ce livre de Bamidbar, dans un désert, c'est le désert de notre vie. Donc, il y a 42 voyages dans notre vie, dans la vie de chacun. C'est pas seulement dans la vie des enfants d'Israël. Et si vous saviez à quelle étape, à quel voyage vous êtes dans votre vie, vous sauriez, parce que chaque étape a un nom dans la Torah. Et ce nom-là, c'est un nom de code, et pas seulement un lieu. Et donc les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils ont la capacité de faire? De dire à chacun selon sa vie, à quelle étape entre l'exil et la terre d'Israël cette personne se trouve. Et quand tu sais décoder ce secret, tu sais en réalité qu'est-ce que tu dois faire dans telle et telle étape. Qu'est-ce que tu es venu arriver à faire ici? Alors il y a des étapes qui s'appellent Mara. Mara veut dire l'amertume. C'est une des étapes. Regardez, c'est des codes. C'est-à-dire un jour tu t'es arrêté dans ta vie, tu as une période d'amertume. Et après il y a une autre qui s'appelle Yotvata. Pas seulement là où on fait le toko. C'est une des... Et qu'est-ce que c'est Yotvata? Je vais vers le bien. Je vais vers le tov. Et donc tout est codé dans la Torah. Si vous ne comprenez pas ce code, vous avez l'impression qu'on est venu vous raconter des histoires à dormir debout. D'un homme et d'une femme qui étaient dans un jardin avec des feuilles de vigne pour se cacher leur nudité. Chas v'shalom, de descendre la Torah à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et ça, c'est le sens de l'étude qui correspond à notre époque. Et c'est pour ça que j'ai eu un plaisir à venir et j'espère que vous avez eu un plaisir à m'écouter. Si vous avez des questions... Comment ça s'appelle? Deborah. Deborah,